tout de suite. Retrouvez le créneau série sur Radio Bartas.
C'est déjà la cinquième partie de la série Le faux procès du loup qui s'est tenue à Florac le 12 septembre 2015. Dans cet épisode, vous pourrez entendre le quatrième témoin appelé à la barre, Farid Benhamou, géographe et spécialiste des conflits liés aux grands prédateurs. Bonne écoute.
Alors monsieur, comme les autres, vous allez décliner vos noms, prénoms, âge, profession et domicile.
Farid Benhamou, je suis domicilié à Poitiers, dans la Vienne, Mignaloux plus exactement, et je suis professeur de géographie en classe préparatoire au lycée Canuguerin de Poitiers et chercheur associé au laboratoire ruralité de l'université de géographie de Poitiers. Alors tout d'abord,
attendez, avant de commencer, vous allez prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Je jure.
Ça, c'est devant la cour d'assises.
Ça vaut aussi pour...
Bon, mais on est sûr que vous allez parler sans haine et sans crainte. Donc, vous avez la parole.
Alors, il a été question de nature pendant les différents témoignages. Et j'aimerais revenir sur cette notion, peut-être plus particulièrement avec son synonyme qui est communément utilisé, qui est le terme d'environnement. On l'emploie beaucoup, mais on le définit peu. Donc je vais commencer tout d'abord par une définition. Qu'est-ce que l'environnement ? Éventuellement, qu'est-ce que la nature ? Et qu'est-ce que l'environnement ? Selon moi, c'est un donné, c'est un perçu, et c'est un produit. C'est un donné parce que, même si en effet, c'est un perçu, c'est une construction sociale, essayez de vous asseoir sur une fourmilière, et vous allez voir que la nature, elle a une réalité physique. Donc, c'est un donné, ce sont des éléments biophysiques. Les animaux, la terre, les plantes, l'air, l'eau. Mais c'est aussi un perçu, parce qu'en effet, nous avons des représentations de cette nature et de cet environnement. Et de là, ça en devient aussi un produit, parce que nos activités influencent cet environnement et nos représentations influencent aussi cet environnement. Si on considère qu'un milieu est beau ou qu'une espèce est belle ou valorisable, on va la protéger. Si on estime qu'une espèce est nuisible, eh bien, on va la détruire. Voilà, je voulais juste revenir sur ce point de définition. Par ailleurs, il est question ici de prédateurs, en effet. Et je rejoins mon prédécesseur dans l'idée que les grands prédateurs ne sont pas forcément ceux que l'on croit. En l'occurrence, il a aussi été rappelé la libéralisation qui a été expérimentée dans le domaine de l'élevage ovin, et qui a causé un tort considérable par l'arrivée d'agneaux, alors en effet du Commonwealth, pour faire simple. Mais plus encore, quand on regarde aussi, entre les années 80 et maintenant, le prix au kilo de la viande d'agneau, qui est quasiment identique, c'est aussi lié aux filières de distribution et de valorisation de ces produits. Alors, en l'occurrence, les bouchers détaillants, comme vous le savez, ont vraiment beaucoup diminué, et c'est la grande distribution qui a beaucoup contribué à réduire ces débouchés. Toujours dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, quand je parle de grands prédateurs, je pense qu'on peut parler aussi de représentants éminents de grands syndicats agricoles, qui sont également des chefs de l'agrobusiness, si vous voyez à qui je pense, M. Xavier Belin, qui sont porteurs d'un modèle de développement qui ne conduit pas à une durabilité de l'agriculture dans son environnement, et ce n'est pas mon prédécesseur qui va me contredire à ce niveau-là. Et donc, ces représentants du monde agricole, soutenus en effet par le ministère de l'Agriculture, sont porteurs et ont porté une vision de l'agriculture, pour faire simple, depuis la Seconde Guerre mondiale, qui visait à limiter au maximum toutes les contraintes provenant de la nature. On a parlé des pesticides, on a parlé des fongicides, l'élimination de tout ce qui pouvait nuire, et beaucoup de paysans qui sont devenus des exploitants agricoles, c'est-à-dire d'un statut que l'on pouvait, qu'ils pouvaient eux-mêmes juger méprisable à un statut qu'ils voulaient valorisable, ont on leur a fait croire que la technique pouvait tout régler et que les humains, les sociétés pouvaient totalement se libérer des contraintes de la nature. Et donc, je trouve que vouloir éliminer le loup de certaines zones, même si en effet on peut en débattre, ou de vouloir éliminer le loup de toutes les zones agricoles, je pense que ça pose en effet des questions de société qui est nécessaire de creuser et de développer, même sur un plan éthique. Pour en revenir au pastoralisme, il y a l'élevage, il y a sa cohabitation ou coexistence avec les territoires, enfin, sur les territoires où il y a le loup. Il y a énormément de territoires agricoles et de territoires d'élevage en France qui connaissent en effet un déclin des exploitations et où il n'y a pas le loup. Ça, c'est une évidence. Alors, en effet, il y a eu notre petit échange entre goutte d'eau et vase de merde, qui, en effet, est révélateur d'un certain nombre de choses. Mais ce que l'on constate dans beaucoup de secteurs, et notamment de secteurs de l'élevage, et même de l'élevage ovin, c'est qu'en effet, on a un nombre d'exploitants qui diminue, et parfois un nombre de bêtes qui, lui, peut stagner, voire parfois légèrement augmenter. Ce qui veut dire qu'il y a un nouvel usage, ou des usages des territoires qui ont évolué. Et je pense qu'il ne faudrait pas systématiquement rigidifier nos modèles agricoles. Et les modèles agricoles qui, en effet, depuis, on va dire, 60 ans, se sont pris énormément d'énormes difficultés. Et le monde agricole et paysan en a payé un lourd tribut. On l'a encore vu cet été avec ces agriculteurs qui sont en train de mourir. Ça, c'est une vraie réalité. Maintenant, est-ce que le loup est le facteur principal, y compris dans les secteurs où il est présent, de cette disparition? Ça, c'est, je pense, une question qui est importante, et je pense qu'en fait, il vient se surajouter à des contextes déjà difficiles, et dans beaucoup d'autres secteurs, eh bien, l'absence du loup n'empêche pas la disparition de ces exploitations, hélas. J'aimerais revenir justement aussi sur l'humain et la place du berger, dont il a été question dès le début. Il faut bien voir qu'en matière de prédateurs, et je connais aussi très bien le dossier du loup, puisque j'ai réalisé ma thèse à l'ENGREF, c'est-à-dire anciennement les eaux et forêts, sur les conflits autour de la protection et la gestion du loup, alors principalement dans les Alpes, moins dans le Massif central, et de l'ours dans les Pyrénées. Et dans une des mesures qui a été portée, qui n'a pas été évoquée ici, c'est le financement par les pouvoirs publics de postes d'aides bergers. Et donc, ce sont des véritables postes avec de l'humain. Et il est vrai que ça a été évoqué, qu'en fait, une des solutions, paradoxalement, même si ça peut en étonner certains, pour améliorer la gestion de ces grands prédateurs, eh bien, c'est de réintroduire des humains. Et on a vu qu'on n'avait pas forcément besoin de bergers kosovars pour réintroduire des humains dans nos territoires français, parce que même si, en effet, on a des salariés qui ont un minimum de droits sociaux et de salaires, et ben on ne va peut-être pas non plus trop s'en plaindre en France. Et si la collectivité a fait le choix de financer plusieurs centaines d'emplois dans ces territoires à prédateurs en France, je pense qu'on peut s'en féliciter. Et j'ai mené dans mes études beaucoup d'entretiens avec le milieu de l'élevage, des bergers et des éleveurs, et j'ai vu, notamment dans les Hautes-Alpes, des bergers obtenir le soutien d'un aide-berger ou d'une aide-bergère grâce au financement public, et certes, dans le but de pallier les contraintes tout à fait réelles du retour du loup, qu'il ne s'agit pas de nier ici, mais j'ai vu aussi, en travaillant avec cet éleveur, ce berger-là, que la présence de cette aide-bergère lui permettait de dégager du temps pour autre chose. Par exemple, pour regrouper certaines brebis qui pouvaient être blessés ou malades, et pour leur accorder plus de temps également. Et même si, en effet, le loup et les prédateurs sont une contrainte réelle, eh bien, il faut bien voir que les pouvoirs publics nationaux ont quand même investi massivement. On a parlé de sommes, hein, 16 millions, 10 millions, elles ne sont pas toujours clairement chiffrées. Mais dites-vous bien que plus de 80% de cette somme va directement au monde agricole et au monde de l'élevage. Puisque qu'est-ce que c'est? Ce sont les postes que j'ai évoqués, ce ne sont pas que les indemnisations, ce sont le financement des chiens de protection, c'est le financement de ces parcs clôturés. Alors en effet, ça vient pallier un préjudice d'origine qui est le prédateur, mais la présence d'un chien de protection ne va pas protéger que contre les loups, il va protéger aussi contre les chiens, il va protéger aussi contre des renards ou des sangliers qui pourraient s'attaquer aux agneaux, il va protéger même à des voleurs à deux pattes contre des voleurs à deux pattes. Donc même si en effet le loup est une contrainte et peut être une externalité négative, Les solutions que les pouvoirs publics ont mises en œuvre pour essayer de pallier, eh bien, peuvent aussi avoir quelques bénéfices. Alors, je ne dis pas, bien sûr, que le loup représente un bénéfice pour le monde de l'élevage. Je n'irai pas jusqu'à cette provocation. Mais c'est un élément qui, selon moi, paraît important. Alors, je reviens encore pour les pouvoirs publics et je vais pour une fin. Comme il est très courant en France de critiquer l'État, l'administration, etc. Et ne vous inquiétez pas, je vais le faire aussi. Mais je tiens quand même à signaler qu'au niveau européen, nous avons quand même, on a vu les sommes que ça représentait, un mode d'accompagnement de la présence des prédateurs qui est certes critiquable, mais qui, selon moi, est le meilleur d'Europe. Il a des limites, mais c'est le meilleur d'Europe. Je ne rentrerai pas dans les détails, hein, mais disons qu'il vaut mieux être un éleveur français confronté au loup. Je ne connais pas trop le cas allemand, mais à mon avis, les espaces concernés sont beaucoup moins importants. Il vaut mieux être un éleveur français confronté au loup qu'un éleveur espagnol ou italien ou portugais confronté au loup, parce que contrairement aux idées reçues, y compris dans ces pays-là, qui sont des pays de vieille cohabitation, nous avons à l'heure actuelle de nouveaux territoires qui sont colonisés par le loup, et dans ces nouveaux territoires, eh bien, dites-vous bien que les problèmes, les tensions, les attitudes sont quasiment identiques à ce que nous on connaît en France. J'en viens maintenant à la gestion publique. Et là, maintenant, je vais peut-être être davantage critique. Et on a parlé des textes. On a parlé de la Convention de Berne, on a parlé de la Directive Habitat. On a parlé, mon prédécesseur a parlé aussi de l'existence, en effet, de tirs. Et en effet, il a, avec une pointe d'ironie, souligné le fait que le démarrage de ces tirs était soumis à des procédures administratives qui pouvaient friser le ridicule. Eh bien, dites-vous bien qu'en France, les préfets, ça ne va peut-être pas en étonner certains ou certaines, les préfets ne respectent pas la loi. C'est-à-dire que, en effet, il a été établi que dans le nouveau plan de gestion, cette année, il y avait 36 loups qui pouvaient être autorisés au tir. Et bien, quand on regarde la manière dont les préfets éditent les arrêtés préfectoraux de tir, et bien, très souvent, ils ne tiennent absolument pas compte des mesures administratives et des étapes qu'il s'agirait normalement de suivre. Très souvent, ils ne le respectent pas. C'est d'ailleurs pour cela que très souvent, les associations de protection de la nature les attaquent et qu'elles gagnent. Mais parfois, ça s'est même produit encore récemment, les tirs ont déjà eu lieu. Et si on, à l'heure actuelle, si on répertorie le nombre d'arrêtés préfectoraux visant à éliminer des loups, eh bien, à l'heure actuelle, l'État français n'est pas à 36 loups, mais on est à 51. Donc, on voit bien que les textes nationaux et internationaux qui en effet peuvent présenter la protection du loup comme un carcan, eh bien, on se rend bien compte que notre pouvoir, les préfets, prennent certaines aises avec ces textes. Alors, concernant leur efficacité, maintenant, et je vais donner quelques chiffres, hein. Certes, l'an dernier, c'était 24 loups, mais on a quand même réussi à éliminer 19 loups. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement du vent. À l'heure actuelle, des loups commencent à se faire tuer légalement, et ça a commencé depuis 2004. Alors, en effet, très peu efficacement depuis 2 ans à peu près. Et depuis qu'on a impliqué davantage les chasseurs, ça a gagné en efficacité. Alors maintenant, quelle efficacité de ces tirs ? Alors, c'est vrai que, je l'ai dit, et je me répète, parce que je pense que c'est une réalité, le loup est une contrainte qu'il s'agit de gérer et même de contenir. Est-ce que les éliminations sont les bonnes solutions ? Eh bien, j'en doute. Je n'ai pas de réticence, je dirais, idéologique ou pratique par rapport au fait qu'un berger confronté à une attaque puisse avoir un fusil et tirer. Et je pense que la réaction de José Bové, s'il avait été à la place de l'éleveur en question ou du berger, je la trouve totalement naturelle et absolument pas choquante. Je trouve même un peu étrange que les associations l'attaquent. Un éleveur, un berger, je veux dire, sa vocation, c'est de protéger ses brebis avec lesquelles il a des relations complexes, c'est un capital, mais c'est aussi du vivant. Donc ça, c'est une réaction que je comprends, que je peux trouver légitime, et qui même, éventuellement, pourrait même avoir une certaine efficacité. Mais éliminer des loups pour tirer des loups en tant que tel, c'est-à-dire, et comme les préfets le font, c'est de manière purement administrative, je pense que ça peut avoir une fonction sociale, c'est-à-dire ça envoie un message au monde de la chasse et au monde agricole en leur disant « Regardez ce que l'on fait pour vous ». On s'occupe de vous. Alors certes, la majorité du monde agricole est en train de mourir, mais on s'occupe de vous. Et est-ce que c'est efficace? Beaucoup d'études ont montré que quand on tire des loups comme ça pour tirer des loups, notamment face à des meutes structurées, on éclate la meute. Et quand on éclate la meute, on multiplie les loups erratiques, solitaires, qui, eux, ont davantage recours à la prédation domestique. Plusieurs études le montrent. Donc certes, sur le plan social, c'est vrai que le monde agricole, qui s'est beaucoup senti méprisé par rapport à cette question du loup, et c'est vrai que le monde agricole a parfois de quoi se sentir méprisé, il est vrai que ça a eu une vocation sociale. Mais est-ce que le pouvoir politique a vocation à réagir parfois de manière démagogique? Et là, on pourrait également parler du cas du requin à La Réunion, qui, selon moi, est traité par les pouvoirs publics de manière totalement démagogique. Mais bon, ce serait un autre débat. C'est-à-dire qu'on a une vision de notre administration extrêmement rigide qui a une vision punitive de la gestion écologique. C'est du règlement de compte, c'est de la vengeance. Or, une vraie gestion raisonnée, y compris pour diminuer les contraintes face à l'élevage, ne doit pas être du règlement de compte. Enfin, ne doit pas venir d'une administration. Là encore, qu'un berger ou un éleveur règle ses comptes avec le loup, à la limite, moi, ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Je suis persuadé que les animaux ont une culture et que même si le berger a tiré à côté ou a mis un peu de grenaille sur le derrière du loup, je pense qu'il servira de leçon et il n'est pas prêt de revenir. Et si, peut-être je suis moins éthologue que ma consoeur Geneviève Carbone, je pense que les animaux apprennent. On a affaire à des animaux en effet complexes. Et la présence de mesures de protection, la présence de tirs éventuels, eh bien, peut en effet contenir l'animal et éviter cette prédation. Par rapport au statut du loup, alors c'est une première depuis le temps que j'étudie la question. Moi, j'ai commencé à étudier cette question en 1998. C'est la première année où, selon moi, d'après les chiffres que j'ai vus, les effectifs de loups sont en train de diminuer en France. C'est-à-dire que les chiffres de 2014 sont de 300 loups, mais les derniers chiffres, alors ce ne sont que des estimations, mais les derniers chiffres sont de 286 loups, je crois, de mémoire. Donc, on a une diminution. Donc, certes, le loup n'est, en effet, au plan international, n'est pas une espèce en voie de disparition, c'est tout à fait vrai. Après, là encore, est-ce que c'est parce que c'est une espèce, que ce n'est pas une espèce en voie de disparition absolue, qu'il s'agit de l'éradiquer? Alors, je sais bien que ce n'est pas ce que demande la partie civile. Mais cela dit, je pense qu'en effet, là, il y a des questions, qui ne sont pas inintéressantes à soulever. Cette question du retour de loup et de la présence du loup est, selon moi, une question de multi-usage. C'est-à-dire, comment vit-on sur ces territoires et est-on capable de le partager? De le partager entre nous, entre acteurs humains, mais aussi avec des acteurs non humains. Alors attention, quand je parle de partage de territoire, je ne dis pas il faut faire primer l'animal sur l'homme. Mais je ne dis pas non plus qu'il ne faut laisser aucune place à l'animal. Je me considère comme chercheur, mais je me considère aussi comme un chercheur citoyen. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, pour participer au débat. Et je ne crois pas non plus à l'objectivité totale, à la neutralité totale d'un chercheur quel qu'il soit. Cela dit, je pense que malgré tout, on peut faire preuve d'honnêteté et de rigueur quand on est confronté à un certain nombre d'arguments. Et il est vrai que ça a été beaucoup évoqué, notamment par Geneviève Carbone, on ne pourra pas régler le problème avec une solution toute faite, c'est-à-dire par les moyens de protection rigides, de manière rigide appliquée partout pareil, ou par des tirs qui pourraient être appliqués partout pareil. Je pense que la situation est complexe, et je pense que les solutions sont complexes et sont à gérer au cas par cas. Et puis aussi, on a affaire au problème que le loup est arrivé dans des secteurs où l'agriculture n'était pas au mieux et connaissait des difficultés par ailleurs. Le cas des Alpes-Maritimes a été évoqué. On a beaucoup évoqué aussi les changements des paysages et la fermeture des paysages. Mais on confond ici la cause et la conséquence. Le loup n'est pas la cause de la fermeture des paysages, il en est la conséquence. Et ce n'est pas du tout la même chose. Là encore, on a affaire à des choix de société. qu'est-ce que l'on fait de ces territoires et de ces paysages? Est-ce qu'on considère qu'il faut les laisser ouverts? Est-ce qu'on considère qu'il faut laisser la nature faire? On a affaire, et ça a été dit par mon prédécesseur, à des équilibres. Mais on a affaire à des équilibres qui sont dynamiques. Il y a une dizaine d'années, là je suis passé en venant ici par le Cosmé-Jean, et j'y étais déjà passé une dizaine d'années, et j'ai remarqué des phénomènes. J'avais lu aussi des articles à ce niveau-là, j'étais très étonné par les pins qui, par rapport aux images anciennes que j'avais, parce que j'ai fait des études de géographie, et j'ai étudié des cartes, avant de venir sur le terrain, j'ai étudié des cartes, j'ai vu des photographies du Cosmé-Jean qui ne correspondaient absolument pas à ce que j'ai vu hier en venant, ou même il y a une dizaine d'années. Et là, les loups n'y sont pour rien à ce niveau-là.
Vous pouvez préciser, parce que tout le monde n'est pas forcément
alors, allé sur le Cosmé-Jean. En fait, on a affaire, comme ça a été évoqué, dans beaucoup de territoires sur les Causses et dans les Cévennes, à des prairies, souvent des prairies calcaires, mais des prairies, c'est-à-dire des milieux ouverts. Or, dans beaucoup de milieux, et même dans les Alpes ou dans les Pyrénées, eh bien, on assiste à un reboisement naturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas un reboisement comme ça a pu être le cas par le passé. On a simplement des essences, alors qui sont variables, c'est du pin, dans les Alpes, ça va être le mélèze, qui se remettent à pousser. Donc alors qu'on était depuis des siècles et des siècles dans des milieux qui étaient des milieux ouverts, de type prairie ou steppe, on est en train d'arriver progressivement, si rien n'est fait, à des milieux forestiers. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je n'en sais rien. Les deux ont des avantages, aussi bien sur le plan social que sur le plan écologique. Après, en effet, c'est de l'ordre du débat à ce niveau-là. Quand on fait des recherches sur moi sur Internet, on tombe sur Farid Benhamou, un chercheur controversé. C'est pour ça que j'ai parlé de chercheur citoyen, et parce qu'un des premiers articles que j'ai fait, c'est au Courrier de l'Environnement de l'INRA. J'étais tout jeune chercheur à l'époque, et par le terrain, y compris par des choses que m'avaient apprises des éleveurs et des bergers, hein. C'est-à-dire que les choses ne me sont pas venues comme ça. En parlant avec des forestiers, alors j'avais souvent été confronté à la question de dire voilà, le loup est. Enfin, le pastoralisme entretient la biodiversité en montagne, le loup nuit, voire va faire disparaître le pastoralisme, donc le loup va nuire à la biodiversité. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à cette notion de biodiversité, cette espèce de syllogisme. Et donc j'ai essayé de réfléchir par rapport à cela. Alors je ne reviens pas sur le fait que est-ce que c'est vraiment le loup qui est responsable de la disparition du pastoralisme ou de l'élevage en France, même si en effet c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de merde, ce n'est pas le seul facteur. Maintenant, est-ce que ces milieux maintenant sont riches en biodiversité grâce à l'élevage? En effet, il y a des mesures agro ou agri-environnementales où l'élevage peut arriver à ce résultat de milieux ouverts, en effet, où il y a des orchidées. Mais dans beaucoup d'endroits, dans les Alpes et dans les Pyrénées, où l'élevage a évolué d'une certaine manière, alors il est vrai que je connais moins bien le contexte du Massif central, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les Alpes, eh bien, on a affaire à un élevage où les troupeaux, la taille des troupeaux a considérablement augmenté, avec une main-d'œuvre, une présence, alors c'est vrai que ce n'est pas uniforme, qui était beaucoup moins importante, et dans beaucoup de secteurs, on a des endroits où on a des troupeaux, 1000, 2000 têtes, et où... Là, si on essaye de passer après pour regarder sur le plan de la biodiversité et des espèces variables, eh bien, c'est un petit peu délicat. Donc, en effet, le pastoralisme peut être un vecteur tout à fait intéressant pour maintenir un certain milieu et une biodiversité intéressante, mais il ne l'est pas forcément. J'ai même vu des zones dans les Alpes-Maritimes pâturées, mais comme il n'y avait pas de bergers, eh bien, ça n'empêchait absolument pas la fermeture du milieu. C'est-à-dire que les brebis, bah, tant qu'elles n'avaient pas de berger pour les conduire, et notre collègue a très bien montré ce que c'était qu'un travail de berger, et il a évoqué de la télépathie, et j'ai des amis bergers qui, en effet, enfin, quelque chose qui relevait de cela, qui, en effet, c'est pas du tout, enfin, c'est quelque chose que j'ai pu constater en parlant beaucoup et en vivant avec des bergers, mais cela dit, quand il n'y a pas ce berger, les brebis sont livrées à elles-mêmes, et elles ne vont pas gérer, entre guillemets, d'elles-mêmes le milieu. Donc, ce n'est pas forcément en mettant des grands troupeaux de brebis dans les montagnes qu'on va régler cette question de la fermeture des paysages, si tant est qu'il faille la régler, là encore. On a un certain nombre de débats à mener à ce niveau-là.
Je vais vous demander de conclure. Parce que...
Eh bien, j'ai terminé. Si ça vous...
Bon, très bien. Eh bien, merci. Peut-être une question avant de donner la parole aux autres acteurs. Vous nous avez expliqué que vous... Ne croyez pas trop à l'objectivité absolue des chercheurs et des citoyens en général. Est-ce que dans tout ce que vous avez entendu ce matin, il y a des choses qui vous paraissent choquantes? Est-ce qu'il y a des rectifications que vous souhaiteriez apporter à ce qu'ont dit les précédents intervenants?
Non, je ne... Enfin, pour vous faire...
Sans nécessairement les nommer, hein, mais...
Non, tous les propos que j'ai entendus aujourd'hui, tous sans aucune exception, témoignaient d'une très bonne foi. Et je pense que...
Mais on peut se tromper de bonne foi aussi.
Pardon ?
On peut se tromper de bonne
foi.
Oui,
mais... Donc. Oui, mais... Après, là, vous me donnez un statut par rapport aux autres témoins qui peut être gênant.
Bah, vous êtes le chercheur.
Bah, je suis le chercheur, mais Joseph Carbone aussi.
Enfin, oui, oui, oui.
Vous savez, le fait que je sois un chercheur ne me donne pas forcément plus d'autorité par rapport à un berger ou un éleveur ou quelqu'un d'autre sur certaines thématiques. C'est-à-dire que la différence, ça c'est aussi mon raisonnement de géographe qui m'invite à vous dire cela, tout est une question d'échelle. Je veux dire, quand on est dans une exploitation, et qu'on a affaire à un berger ou un éleveur, parce que c'est pas toujours la même chose, hein, qui est confronté à une attaque de loup sur le moment, et qu'en effet, et là, c'est une réalité, on peut être confronté à un drame humain. Parce qu'en plus, avec le loup, il y a aussi beaucoup de choses qui est drainées. En effet, il y a aussi une remise en cause des pratiques, parce qu'un loup, c'est un animal complexe, pas facile, peut-être moins facile à entendre pour un berger ou à gérer, entre guillemets, qu'un chien. Donc il y a une remise en cause. Il y a la charge médiatique qui est importante, il y a une charge politique qui est très forte. Il y a aussi le fait que le berger ou l'éleveur peut se dire « voilà, peut-être que je suis mauvais ». Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Peut-être que ça fait ressortir le fait que ces conditions de rémunération sont difficiles. Et il est vrai que le fait qu'il y ait eu parfois des postes d'hébergés qui ont été créés, beaucoup d'éleveurs n'ont pas vu ça d'un bon œil, puisque étant employeur et payant au black un certain nombre de bergers, parfois même en les méprisant, quand on doit répondre à des critères pour bénéficier d'une aide d'État, eh ben, on doit faire une petite paye, on doit déclarer, etc. etc. Donc, à l'échelle de l'exploitation, le fait que même des exploitations qui peuvent être très difficiles à garder, et même la contrainte du loup peut même être insupportable, c'est tout à fait possible, comme elle peut être gérable, une fois qu'on se place au niveau de la vallée, le regard n'est peut-être pas forcément la même chose, puisque peut-être que des éleveurs à côté ne se comportent pas de la même manière, ou des bergers à côté ne se comportent pas de la même manière. Et quand on regarde au niveau du département et au niveau national, quand on essaie de prendre du recul, on n'a pas forcément la même vision des choses. C'est-à-dire que moi, je peux arriver ici et vous dire, vous voyez, le loup, c'est, je sais pas, on va dire 5 ou 6 000 brebis par an. Voilà. Et puis je peux vous dire, mais oui, mais il y en a 500 000 qui partent à l'écarissage tous les ans. Il y a 500 000 brebis qui partent à l'écarissage tous les ans. Voilà. Vous voyez la réaction. Ça énerve. Parce que là, c'est normal. Parce qu'on compare des choses qui ne sont pas forcément comparables suivant l'échelle à laquelle on se place. Donc tout est une question d'échelle. Hein, tout est une question d'échelle.
D'autres questions de la part des juges ?
Oui, j'avais une petite question. Vous avez évoqué le fait que les effectifs de loups auraient diminué cette année. On a un début d'explication ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est le début d'un reflux ou est-ce que c'est purement conjoncturel? Cette année, il y en a un peu moins, l'an prochain, il y en aura plus.
C'est un peu complexe. Les causalités sont peut-être un peu complexes, mais à mon avis, il y en a plusieurs dont on peut faire l'hypothèse. Déjà, je vous ai signalé qu'il y en a 19 qui ont été éliminés légalement. Donc, ça fait presque une vingtaine. Et là, vous voyez, par rapport à l'estimation, je crois, c'est un calcul rapide, et donc ça fait 14, je crois, au moins. Donc il y en a déjà 19 qui ont été éliminés légalement. L'année d'avant, on était à 17. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle le braconnage ou le braconnage cryptique. C'est-à-dire, le braconnage cryptique, c'est-à-dire il est caché, c'est un chercheur français qui vit en Suède, qui s'appelle Guillaume Chaperon, qui a développé ça. C'est-à-dire, le braconnage, il est cryptique parce qu'on ne saura jamais à combien il s'évalue. Il y a des années où il va être plus ou moins important et il peut très bien avoir des bergers qui règlent leur compte en douce, comme il peut très bien avoir des chasseurs qui, lors d'une battue, tombent sur des loups et éliminent, comme il peut très bien avoir, comme on a de fortes suspicions dans le Mercantour, des bergers qui se soient spécialisés illégalement dans la chasse aux loups. Après, il peut y avoir des paramètres écologiques qui, moi, peuvent m'échapper, ça, je ne connais pas les éléments, mais le fait que, par exemple, je ne sais pas, moi, dans tel ou tel secteur, l'alimentation en proie sauvage est diminuée, ce dont je doute, puisque partout en France, ça augmente. Voilà. C'est peut-être aussi parce que les indices ont été moins bons. Je pense que c'est tout un faisceau.
Alors, j'ai une deuxième question, mais ça doit être parce que je suis obtuse. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, dans la mesure où on autorise de tuer 34 loups, on n'en tue que 19.
Ah, mais parce que... Est-ce que vous avez déjà... Ah, j'allais dire, est-ce que vous avez déjà vu un loup sauvage?
Non.
Bon, je vous rassure, moi non plus. Et pourtant, je suis beaucoup allé dans ces territoires, mais cela dit, moi, contrairement à Geneviève Carbone, je ne les cherchais pas. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'humains. C'était mon but. Je suis géographe, même si, bon, j'ai... Mais cela dit, j'ai quand même, accessoirement, cherché à pister les loups. Donc, ce sont des animaux qui sont déjà extrêmement durs à voir, parce que, bon, il y a quand même plusieurs siècles, voire millénaires de persécution, même si, de plus en plus, on les voit en plein jour, ça reste des animaux qui savent très bien passer inaperçus. C'est comme l'ours, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous promener dans une forêt, avec un ours ou un loup qui va être dans un buisson juste à côté, s'il n'a pas envie que vous voyez, vous ne le verrez pas. Donc ce sont des animaux qui sont très durs à voir et donc très durs à chasser. Et donc c'est pour cela que la chasse était extrêmement difficile. Et alors, là où elle a gagné en efficacité, c'est qu'on a autorisé donc, légalement des chasseurs en battue qui, quand ils étaient confrontés à des loups dans certains secteurs, eh bien, à les éliminer. Donc là, on a gagné en efficacité.
Monsieur l'avocat général, vous avez des questions ?
Plus de questions.
Plus de questions.
C'était lumineux. Oh.
La partie civile.
Eh bien, je vais vous faire plaisir, Monsieur le Président. Je n'ai pas de questions.
Non, mais vos questions me font plaisir. Hein, ne
vous avez faim.
Surtout quand elles sont courtes, c'est pour ça. La défense a-t-elle des questions ? Parfait. J'ai l'impression que tout le monde a envie d'aller déjeuner, surtout.
Je suis sérieux.
Voilà. Alors, nous allons...
C'est le ventre qui a parlé.
Nous allons interrompre. Nous allons interrompre pour le déjeuner. L'audience reprendra.
La défense redemande.
Non, je vais rien, pardonnez-moi.
Il y a une question, j'aurais aimé savoir pourquoi le très honorable berger, à l'occasion de propos du professeur, a quasiment explosé sur sa chaise.
Le terme est un peu fort.
Il y a un élément de débat.
Le terme est un peu fort, mais enfin.
Et si, il tapait sur ses cuisses, c'est de
Je crois pouvoir répondre à sa place, parce qu'il n'était pas d'accord. Parce qu'il n'était pas d'accord.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas tout confondre. Parce qu'il existe dans toute activité des pertes qui sont dites techniques, qui sont inhérentes à l'activité même. Et que si on met dans le même sac ces pertes techniques, ces pertes normales, et je ne dirais surtout pas naturel, je dis bien normal, habituel, parce que quand on roule avec des camions, on crève des pneus. Bon, quand on travaille avec des brebis, on a des pertes qui sont dues à une chose, à une autre, et qui sont inhérentes même à l'activité. Donc quand on confond ça et, avec des pertes qui sont absolument autres d'une origine... complètement différente et que l'animal ayant créé ses pertes, ayant tué ses bêtes, est un animal protégé, on est quand même dans un cas de figure qui, moi, me fait exploser. Dire il y a 500 000 brebis qui partent à l'écarissage, d'abord, je voudrais bien savoir d'où sort le chiffre, d'une part. D'autre part... l'impact est complètement différent.
On a compris que vous explosiez toujours.
Ah, je continue à exploser. Ce sont des comparaisons qui me sont insupportables.
C'était justement mon propos, c'est-à-dire que...
Oui, oui, on a bien compris que vous ne repreniez pas à votre compte ce chiffre-là. Bien, on va suspendre donc pour le déjeuner. Compte tenu du timing très serré de cet après-midi, l'audience reprendra à 14h23. Précise. Bon appétit.
Merci.
Dans le prochain épisode, vous entendrez l'amicus curiae, le cinquième témoin en quelque sorte. Il s'agit de Michel Vidal, ingénieur agronome, docteur en sciences de l'éducation, spécialiste des questions socialement vives. À la semaine prochaine.